4, Beethoven par Mazur.
2014, venez souffler les bougies de l'Orchestre National de France le 13 mars avec Ricardo Muti.
Tous nos concerts au 01 56 45 16
et sur concert.radiofrance.fr.
Le National, 4 fois 20 ans. France Inter.
La voix est libre.
Très bon après-midi sur Inter, il est 15h04. Là-bas, si j'y suis, Daniel Mermet.
Daniel, je n'ose plus déposer de message. Je n'ose même plus t'appeler. Je ne veux plus. Je ne sais jamais. Le buisson ardent nous écoute peut-être. Voilà, je tairai mon nom. J'ai peur. La NSA peut trembler. Adieu, Daniel.
Monsieur Mermet, bonjour. Dominique à l'appareil, 46 ans, chauffeur routier. Je voulais vous appeler juste pour vous remercier. Ça fait deux fois que vous arrivez à me tirer les larmes en moins de trois semaines. Vous avez des reportages, voilà, c'est de l'autre monde quoi, c'est de l'autre monde. Voilà, merci encore et bonne continuation.
Oui, bonjour à tous. Vous avez tous déjà entendu parler de Gandrange ou de Florange. Eh bien, il y a une autre ville qui s'appelle Agondange. Alors, vous allez me dire quel est le point commun entre ces villes. Comme chantait Bernard Lavilliers, bah, ce sont des villes qui se terminent en ange. Et puis l'autre point commun, eh ben, c'est qu'Agondange, on n'en parle peut-être pas beaucoup, je ne sais pas si on va en parler, mais ça va licencier fort également. Il y a une boîte là-bas qui s'appelle Ascometal, qui est sur le point de licencier environ 700 personnes. Donc, en plus de se terminer en ange, eh ben, il y aura également des licenciés. Autrement, à 50 km de là, dans le nord de la Meurthe-et-Moselle, il y a deux autres boîtes qui ferment. Là, il y en a une qui ferme la semaine prochaine, qui s'appelle la Socotube, 44 personnes sur le tapis. Et puis une autre qui s'appelle Eurostamp, où là, il y a 107 personnes, il me semble, avec une mort qui est déjà programmée depuis pas mal de temps. Et le dernier point commun entre tout ça, eh ben, c'est toujours le même. C'est que ça ferme parce que les actionnaires veulent récupérer leur argent. Tout simplement. Vous avez aimé les années Mitterrand ? Eh ben, vous allez adorer les années Hollande. Et moi, des trucs comme ça, eh ben, ça me fait penser un petit peu tous les jours que je devrais peut-être me reconvertir au lieu de travailler, puisque j'ai encore la chance de travailler. C'est peut-être d'être simplement escroc ou bandit, ça marche pas mal. Apparemment, ça marchera bien même, en plus. Allez, bonne journée à tous.
Par pitié, mon pauvre Daniel, mais cessez donc de confondre la Wehrmacht et les nazis. Oh, bon sang, quand on est quelqu'un de si instruit que vous, on ne fait pas des conneries pareilles. Je continue d'écouter votre émission là sur Kiev. Au revoir.
Bonjour à toute l'équipe, c'est Paul-Henri d'un petit village de Haute-Corse. J'écoute en ce moment l'émission sur Babillard et je voudrais absolument la dédier, la faire entendre à tous ces abrutis qui nous font des quenelles devant des sites particulièrement chers à notre mémoire et que, en écoutant un peu cette émission, ils sachent un petit peu ce que c'est qu'un crime contre l'humanité et ce que c'est que faire l'apologie de ce crime contre l'humanité. Moi, je l'oublierai jamais. Mes enfants ne l'oublieront jamais. Et je n'oublierai jamais qu'en 2014, en France, des abrutis font des quenelles à Oradour-sur-Glane. Vas-y, Daniel, continue. Ciao.
Salut à tous. Le dimanche 9 mars à Mâcon, à la MJC de l'Héritant, se déroulera la 10e journée biodiversité avec plus de 50 associations qui tiendront des stands. De nombreuses actions concrètes vous attendent. Des grèves d'arbres fruitiers avec des variétés rares, la fabrication de bombes de graines, des échanges de semences, un marché paysan, des conférences, bref, plein de choses. Venez nombreux. Allez, c'est Marcel d'Attaque Mâcon. Salut.
Alors là, vous allez voir Antoine Chao arriver. Hein, il va être à Mâcon là, à tous les coups. S'il y a tout ça, la biodiversité, ça l'intéresse. Et aujourd'hui, vous allez voir ce qu'il a fait de cette histoire avec Emmanuel Giboulot. Ça vous dit quelque chose, Emmanuel Giboulot ? Ah, tout le monde connaît Emmanuel Giboulot, non ? Ah ben alors là, vraiment, où étiez-vous pour ne pas avoir entendu parler de ce vigneron bio qui a refusé de traiter son vignoble avec un insecticide destiné à lutter contre une maladie de la vigne, la flavescence dorée, alors même qu'un arrêté préfectoral fait obligation aux viticulteurs de diffuser ce pesticide pour lutter contre ce fléau qu'est la flavescence dorée. Or, Emmanuel Giboulot, vous allez voir, c'est un ami d'Antoine Chao, quasiment, quoi. Eh bien, il a refusé. Il a refusé de faire ça, arguant que c'est pas indispensable et qu'il y a d'autres moyens. Alors, ça a été un soulèvement général. Tout le monde a signé les pétitions, est venu le soutenir. Enfin, c'est vraiment un mouvement national, international, pour soutenir ce vigneron qui finalement est passé au tribunal. Le parquet a requis une peine de 1 000 euros, alors qu'il était question de 30 000 euros, de la prison, etc. 1 000 euros et encore avec sursis, enfin voilà. Donc le jugement n'est pas encore rendu, ce sera je crois le 7 avril. Mais c'est intéressant de voir ce phénomène. Pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé ? On s'intéresse à ce point, au combat de ce vigneron, et puis où il en est, ce qu'il raconte. Donc c'est notre sujet du jour. Mais auparavant, on va se rendre à Boston. Boston. Ah oui, qui est à Boston en ce moment ? Eh bien, ce sont les anciennes salariées de Samsonite que vous avez envoyé là-bas grâce à vos dons. Et ouais, c'est grâce à vous, les auditeurs de là-bas, si j'y suis, qu'elles sont là-bas, entre autres, grâce à vous, bien sûr, on n'est pas les seuls à les avoir soutenues. Mais en tous les cas, la solidarité a marché. Ils sont, parce qu'il y a les maris aussi, elles ont emmené quand même leurs compagnons, leurs maris. Ils sont au total 31. Et vous connaissez l'enjeu, lutte contre Bain Capital, ce grand fonds d'investissement américain qui, selon ces anciennes ouvrières de Samsonite qui ont été licenciées abusivement, eh bien, c'est Bain Capital, cet immense fonds de pension qui est le responsable. Voilà pourquoi ils sont venus tous ensemble. Au tribunal. Alors, on les a appelés, Anaëlle Verzo les a appelés pour avoir des nouvelles.
Allô ?
Allô, Brigitte, c'est Anaëlle.
Salut.
Comment ça va ?
Ça va, la pression est tombée.
Alors, il y avait du monde dans la salle, dans la salle d'audience, c'était comment ?
Bah, nous, on est tous rentrés dans la salle d'audience, hein. Et je sais pas, tu as vu que... Comment Gouletteur ont été condamnés à 2 ans de prison ferme ?
Ils ont été condamnés à nouveau. C'est tombé tout à l'heure, aujourd'hui.
Ah oui, alors quelle coïncidence.
Les deux patrons voyous, les deux anciens de Energyplast qui ont été à nouveau condamnés par la Cour de cassation, là, aujourd'hui.
Le même jour que nous, on est ici à Boston, c'est une drôle de coïncidence. Bon, nous, c'est bien, quoi, qu'ils ont à nouveau de la prison. Je sais pas si tu te rappelles, Aurel, lui, avait eu que 1 an ferme. Et là, ils ont 2 ans ferme. Ça nous a remis de la pêche, là.
Est-ce que c'est différent, les audiences aux États-Unis par rapport à comment c'était en France ?
Ah oui, 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 ah oui, c'est différent. On a cru que ça allait débattre plus longtemps. Bah, ça a duré combien de temps, Bruno ? 20 minutes. Ah oui, c'est court. Écoute, ça nous a choqués, mais alors, c'est leur façon de faire.
Ça a fait son effet ou pas, le fait que vous arriviez à 30 dans la salle d'audience, que soyez présente ?
Je crois qu'ils ont quand même été étonnés, les juges, de nous voir là. Puis tu vois, on est rentrés tous ensemble, quoi. On n'a pas rentré un petit peu par un petit peu, on est rentrés tous ensemble.
Bravo. Hein.
Merci, allez, ciao.
Ciao.
Allô ?
Maître Fiodor Rylov, ça s'est bien passé ?
Bah, disons que ça s'est passé à peu près comme on souhaitait, c'est-à-dire que le juge nous a posé les questions que nous attendions, et on a pu approfondir tous nos arguments. J'espère que ça va suffire pour emporter la conviction de la Cour. Ce qu'il faut retenir en réalité, c'est qu'on demande à l'une des plus hautes juridictions aux États-Unis de trancher des problèmes de droit très sophistiqués en faveur de 200 salariés d'Hénin Beaumont qui sont venus leur poser ces questions complexes avec en toile de fond la mondialisation des multinationales qui font des profits colossaux et qui pour cela n'hésitent pas à supprimer des centaines de milliers d'emplois. Qu'est-ce qui va sortir de cette bataille-là ? On va le savoir dans quelques semaines. Ce qu'on espère en tout cas, c'est que l'alliance de la lutte de ces ouvrières du Nord et de quelques avocats ici aux États-Unis qui ont mis leur talent au service de cette bataille, de ce combat, va conduire la Cour de Boston à juger une première. Ici, un symbole fort de salariés qui ont décidé de ne pas se laisser faire et d'internationaliser leur combat, y compris en passant par la voie judiciaire. et à le juger bien.
L'usine Samsonite se trouvait à Hénin-Beaumont. Hénin-Beaumont, où le Front National espère récolter un maximum de voix pour les élections municipales. Le Front National se présente comme le parti des ouvriers, le parti des travailleurs. Est-ce que le Front National a soutenu ou a cherché à soutenir la lutte des ouvrières, des anciennes ouvrières de Samsonite? Est-ce
que le Front National soutenir les salariés en lutte de Samsonite à Hénin-Beaumont, franchement, c'est même pas imaginable. Parce que ça viendrait pas à l'idée du Front National d'entrer dans une démarche de lutte réelle des salariés contre une grande multinationale qui exploite les gens, les prive d'emploi et de ressources. Généralement, le Front National est aux côtés de ceux qui exploitent et qui prive les gens d'emploi. En tout cas, ça, c'est ma conviction. Et puis, par ailleurs, et c'est probablement le plus important, les salariés en lutte depuis 7 ans de Samsonite ne veulent pas du Front National. C'est d'ailleurs parce qu'ils ne veulent pas du Front National et qu'ils ne se trompent pas d'adversaire qu'ils sont en lutte depuis 7 ans.
Merci beaucoup.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Merci, Fiodor. Au revoir.
Si je vous comprends bien, docteur, et si je vous suis, cette famille française en train de déjeuner s'assassine lentement.
Je ne pense pas qu'elle court des dangers immédiats, mais rien ne nous prouve qu'à la longue, certains aliments ne vont pas avoir des répercussions dangereuses.
Sans compter que si les produits de la terre sont contaminés, le consommateur se retournera contre les agriculteurs et non contre les grands groupes comme Monsanto.
À chaque fois qu'on peut éviter d'utiliser les pesticides, le monde entier gagne. Les producteurs, les gens qui travaillent dans le vignoble et les consommateurs.
Stop ! Jamie, qu'est-ce qu'il y a là, dans ton bidon ?
Un insecticide ?
Épandez, épandez, vous pourrez améliorer le rendement de votre terre. I'm gonna buy a paper
doll that I can call my... Tout ce qu'on fait à la nature s'en souvient.
Environnement, avec ce chiffre inquiétant sur le niveau de pollution des cours d'eau en France, 93.
Et quand on donne cabé à la nature.
L'environnement, faut-il imaginer un monde sans abeilles?
La nature vous le rend bien.
Ne vous fiez pas à sa beauté, ce champ peut être toxique.
À peine 7% de nos rivières seraient vierges de toute trace de pesticides.
Pas d'âme politique aujourd'hui au salon de l'agriculture, mais des agriculteurs malades qui manifestent pour dénoncer les effets des pesticides sur la santé.
Selon des études internationales, ces maladies sont provoquées par l'aspersion de pesticides.
Enfin, le vin, docteur, le vin, notre boisson nationale, le bon vin de France, vous n'allez pas me dire qu'il y a du danger à en boire. Modérément, j'entends.
Tout de même, certains problèmes se posent. Aussi, les producteurs ont tendance à mettre des antiseptiques dans le vin.
Alors, docteur, si je vous suis, on ne peut rien manger, on ne peut rien boire.
Mais si, mais l'important, n'est-ce pas, c'est de comprendre que toute technique pose un problème d'adaptation. Et lorsque cette technique est alimentaire, le problème d'adaptation, c'est de juger des rapports entre l'aliment et la santé du consommateur à la longue.
Écoutez, ça a l'air un peu compliqué ce que vous dites. Alors le mieux est peut-être que demain, nous allions voir sur place comment ça se passe.
Très volontiers.
Salut! C'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Antoine Chao, Emmanuel Giboulot, le naturel revient au galop.
Ah, il y a une magnifique machine à vendanger, qui doit faire 3 mètres de haut.
Il y a même un système de tri sur celle-ci en haut. Qui permet de trier la vendange, voilà, dès la parcelle de vigne. Aujourd'hui, on a une très bonne qualité.
Arriver à la qualité du travail à faire à la main.
C'est vraiment très très dur de faire la différence entre ramasser à la machine et ramasser à la main. Tout ça, on va dire, pour deux raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, on secoue la vigne, on ne la bat pas. Donc ça, c'est vraiment une nuance importante. Et la deuxième, c'est que là, vous pouvez travailler sur des plages réduites horaires. Cette année, les vendanges ont eu lieu très tard, si vous en avez entendu parler, à cause du froid, à cause de la pluie. Et du coup, il y a le botrytis qui s'est développé, la maladie. Donc certains viticulteurs ont eu que 24 heures pour ramasser 2 hectares, 3 hectares. Ça, à la main, c'est impossible. Avec la machine, une G8 comme celle-ci, on peut ramasser 1 hectare par heure.
Ah bon ?
1 hectare par heure avec la G8. Dans les 5-6 km/h, sachant qu'on a des clients qui vendent jusqu'à 7 km/h. 7 km/h.
Combien ?
Combien coûte une machine comme ça alors ?
Celle que vous avez devant les yeux, donc c'est vraiment le plus gros modèle qu'on commercialise en France, fait pour les gros rendements, la G8-270. Le tarif est de 250 000 euros.
Et le poids d'une machine comme ça ?
Alors, celle que vous avez devant les yeux, elle pèse 10 tonnes.
Et est-ce qu'on ne risque pas de tasser les sols et de les détériorer ?
Non. Il n'y a aucun problème de ce côté-là, notamment dans le sens où la transmission est assurée par des moteurs hydrostatiques avec des systèmes d'antipatinage. Il n'y a aucun problème de traction ou de motricité aujourd'hui. À l'intérieur, maintenant, tout se commande avec une tablette tactile et un joystick. Donc on est vraiment sur la technologie moderne et plug and play, entre guillemets, parce que quand on va mettre un pulvérisateur dessus, la tablette le reconnaît tout de suite, toute seule.
Combien d'enquêtes, monsieur ?
Voilà, plug and play. Voilà, c'est plus compliqué. On se demande comment ils ont fait les ancêtres. Jusque-là, comment on faisait quand on n'avait pas ça, la machine qui coûte 250 000 euros. Et vous avez vu, on est tranquille. Hein. La question qu'a posée Antoine, lui, il s'intéresse au sol, au tassement des sols. Il est rassuré. Ah, il est rentré au bureau, il a dit, vous savez, hein, il n'y a plus de problème de tassement des sols. Ça nous a fait du bien. Et puis, plug and play, voilà, c'est fini. Bon, eh ben, c'est formidable. Vous entendez les bestioles, là, derrière, écoutez. Écoutez bien. Hein. Ouais. Ben, rigolez pas trop, parce que bientôt, il n'y en aura plus. Hein. Les abeilles, il n'y en a plus. Les vaches, il y en a encore un peu, mais c'est en voie de disparition. Les oiseaux, n'en parlons plus. C'est en voie de disparition aussi, rigolez pas. Partout, il y a des pesticides, les abeilles s'en vont, les petites bestioles s'en vont, donc les oiseaux s'en vont, et les vaches aussi, et puis voilà, quoi, bientôt, il n'y aura plus rien, du béton, et puis... Oulou ! Il n'y aura même pas d'assiette, il y aura juste une pilule, et puis voilà, c'est tout, on aura mangé, voilà, on va se coucher. Oui, non, mais on va vers ça, on est très, très inquiets. Alors, je rigole qu'à moitié, parce que là, vous avez compris, on va retrouver Emmanuel Giboulot, mais quand même, cette histoire de pesticides, ça fait quand même un bout de temps que ça dure, ça fait un bout de temps qu'on en parle, on a fait combien de reportages, d'émissions, de recherches, de toutes sortes, pour rappeler encore une fois que la France consomme près de 100 000 tonnes de pesticides chaque année, qu'on est au troisième rang mondial après les États-Unis et le Japon, qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui souffrent de cancers, de maladies neurologiques, de troubles de la fertilité liés à ces pesticides. On sait tout ça, les médecins sont d'accord, les scientifiques sont d'accord, le lien est fait, et pourtant, eh bien, on continue. Il y a une véritable conjuration, on peut parler ainsi, des intérêts divers et variés, des fabricants, des producteurs, et d'un certain nombre d'agriculteurs, et de la haute administration, etc. Et des médias qui sont évidemment toujours complices, comme vous savez. Donc c'est un vrai sujet, c'est un vrai problème. Et voilà pourquoi Emmanuel Giboulot, ce viticulteur de la Côte d'Or, en Bourgogne, à Beaune, a refusé ce que j'expliquais en commençant, c'est-à-dire d'utiliser ce pesticide comme cet obligé, il y a un arrêt préfectoral qui astreint les viticulteurs à répandre ce pesticide. Or, lui, s'y est opposé. D'autres l'ont fait aussi, mais n'ont pas été vérifiés. Lui, il a été vérifié. Donc voilà, donc toute cette histoire et cette concentration d'intérêt, de soutien à travers tout le pays. Ça vaut le coup quand même de s'intéresser à cela. Et puis, on va rencontrer les Bourguignons qui, depuis si longtemps, Claude et Lydia Bourguignon, eux qui sont d'anciens ingénieurs agronomes, sont en guerre, mais depuis très longtemps, contre les pesticides et contre le traitement des sols. D'où la question d'Antoine sur le tassement des sols. C'est une question très, très judicieuse. Vous allez pouvoir en juger. C'est jusqu'à 16h ou presque. C'est là-bas, si j'y suis.
Je vous parle d'un champ que certains paysans ne veulent pas connaître. Quelques bobos babas qui ne pensent ici-bas qu'à leur petit bien-être, et pour payer le prix d'une meilleure vie, ils refusent l'évidence. Que de progrès perdus si ces belles semences sont brûlées dans la rue. L'OGM, OGM. On a beau dire, mais y a pas mieux. L'OGM, l'OGM, c'est l'assurance des jours heureux. Dès qu'on dit transgénique, ça y est, c'est la panique, l'écolo se ramène, refusant le destin d'un merveilleux festin. Ils me font de la peine, mais je sais que demain, on percevra les gains de ces petites graines. On a tant investi pour acquérir ces gènes et breveter la vie. L'OGM, l'OGM, on a beau dire, mais il n'y a pas mieux. L'OGM, l'OGM, tant pis si je n'ai qu'un bras sur deux.
Là, c'est la ferme de l'Odyssée végétale. C'est quand même pas mal, l'Odyssée végétale.
Ils n'osent plus dire l'UIPP, hein, qui est l'Union des industries productrices de pesticides. Donc, ils ont commencé à se verdir en se faisant appeler l'Union des industries protectrices des plantes, parce qu'évidemment, productrice de pesticides, ça ne marche plus aussi bien. Et puis maintenant, ils ont tellement honte qu'ils ne mettent même plus leur nom. C'est-à-dire qu'avant, il y avait écrit, ils étaient très fiers, il y avait écrit Syngenta, Monsanto, enfin, toute la fine équipe d'empoisonneurs de la planète. Là, ils ont tellement honte qu'il n'y a même plus leur nom. Ils appellent ça Odyssée végétale. Et on ne sait même plus que c'est l'UIPP. Il faut vraiment avoir un très, très bon œil pour le voir. Donc ça montre qu'ils ont honte. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Le fait qu'ils aient honte de leur propre existence, je trouve que c'est plutôt un bon signe pour l'évolution de l'agriculture.
Alors, Claude et Lydia Bourguignon, vous êtes venus ici au Salon de l'agriculture. C'est pas vraiment l'agriculture que vous défendez, vous, ici. Même s'ils ont mis une belle vache dans son pâturage en tête de gondole, c'est quand même une industrie productiviste et qui détruit les sols.
C'est vrai que le patrimoine sol est particulièrement dégradé par l'agriculture productiviste et la terre, c'est elle qui nous nourrit, hein, faut pas l'oublier. Hein.
Oui, mais on voit quand même des choses dans ces salons. Il y a des tout petits changements. Une jardinerie ne veut plus mettre de pesticides, ne vend plus de produits. Donc, effectivement, elle est à côté de la ferme Odyssée végétale. Mais en fait, on voit un changement. Il y a 5 ans, 10 ans, c'était même pas concevable.
Mais est-ce que c'est une prise de conscience fondamentale ou alors une histoire de business, d'image de marque qu'il faut préserver ?
Ces multinationales, c'est vraiment une image de marque. Ça, c'est clair pour nous, c'est évident. On a mis du vert partout. Par contre, je pense qu'il y a un changement de conscience chez les gens du fait des maladies, du fait de plein de choses qu'on est en train de voir. Et je pense que les gens veulent un autre discours et veulent une autre alimentation.
Chez les amateurs, le jardinier ou le gars qui a son petit jardin autour de sa maison, il commence à comprendre qu'on peut cultiver sans mettre de poison. Donc ça, c'est très nouveau. Avant, ils n'imaginaient pas, il fallait que l'allée soit passée à l'herbicide, il fallait que tout soit propre, qu'il y ait le gazon avec le chien castré qui fait pipi sur le cèdre bleu, il fallait que tout soit nickel, quoi. Et maintenant, les gens commencent à accepter qu'on puisse faire un jardin agréable et bien nourrir ses enfants sans mettre des poisons sur la terre.
Alors justement, là, il y a un cas qui a été très relayé, hein, c'est le cas du viticulteur, hein, Giboulot.
Ah oui, Emmanuel Giboulot.
Voilà.
Pour nous, c'est une grande réussite.
Ça bouge, hein. C'est le monde de la vigne, curieusement, qui a été très, très polluant, qui est en train d'évoluer le plus vite, puisqu'il y a à l'heure actuelle en Bourgogne, par exemple. Il y a 12% qui sont en bio, viticulteurs qui sont en bio. Alors que nous, quand on a commencé avec le laboratoire, il y en avait que 3, dont Emmanuel Giboulot, qui faisait partie des tout premiers. Hein, donc vous voyez, ça bouge quand même. Hein, ça bouge.
Le laboratoire, c'est-à-dire ?
Le laboratoire d'analyse microbiologique des sols. Donc on est le seul laboratoire en France à mesurer l'activité biologique d'un sol. C'est-à-dire qu'on n'aborde pas seulement le sol sur le plan physique, chimique, mais aussi sur sa dimension vivante.
Bah, les sols en France, mais pas qu'en France, en Europe, dans le monde, sont hélas en très mauvais état. Donc remettre un sol vivant debout, en fonction du type de sol et du type d'agriculture qu'ont fait les agriculteurs, dans le meilleur des cas, on va dire qu'au bout de 5 ans, on revoit des choses, mais dans certains cas, 10 ans, 20 ans, c'est toujours pas beau.
On pourrait les appeler des médecins du sol.
France 2,
à la demande des propriétaires, Lydia et Claude Bourguignon auscultent les entrailles de la terre pour mieux poser un diagnostic sur sa santé.
15 octobre 2008.
Il observe, il étudie et il ressort
le meilleur de ce que peut produire ce sol.
Peut-on planter ici une nouvelle vigne? Pour le savoir, il faut analyser.
Comme ça, en thèse de terrain, on dit que c'est plutôt un sol pour vin rouge.
La vigne, ça a toujours été une plante symbolique puisqu'elle vivait 100 ans comme l'homme. Et elle commence à faire des grands vins à 40 ans. Puis depuis qu'on utilise des produits chimiques, depuis l'après-guerre, on a tué les sols et maintenant, entre 25 et 30 ans, il faut arracher les vignes.
Alors le LIMS, on l'a créé en 1990, quand on est sorti de l'INRA, puisque on travaillait avant à l'INRA, dans les années fin 90, je veux dire, l'agriculture biologique, tout ce qu'on n'arrête pas de parler, on a été extrêmement combattus. Je travaillais sur la qualité des aliments de l'homme. Donc moi, j'étais au-dessus, on va dire, et plus particulièrement, je travaillais sur le problème des huiles, l'huile de colza, les problèmes liés aux acides gras dans les huiles. Et Claude était en
microbiologie des sols. Voilà, on était chacun au deux bouts de la chaîne alimentaire. Quoi. Moi au niveau du sol et Lydia au niveau de la qualité des aliments.
Bon, on s'est rencontrés là-bas, hein, puisque on a fondé notre famille. Et c'est vrai que très vite on s'est rendu compte que déjà en se promenant la nature, on parlait des pluies acides de certaines choses. Et on s'est dit non, il faut sortir de là. Quoi. On a un autre discours à tenir. Et là, on s'est dit, il faut partir. Quoi, parce que d'abord, pas de liberté de parole. L'INRA devenait beaucoup moins libre. On commençait à travailler avec des contrats de ces multinationales, de ces firmes, où en fait, on nous demandait de voir quel problème d'une huile ou problème de vitamines. Et à la limite, la publication, elle appartenait à la firme. Elle appartenait plus. On publiait s'ils voulaient. Et là, on s'est dit non, c'est fini, quoi. Il n'y a plus de liberté. Donc, on fait le grand pas. Mais ça a été dur, hein. C'était fonctionnarisé tous les deux, vous savez. Oui, on était fonctionnaires tous les deux. Mais il y a quand même des changements. Ils commencent à dire qu'effectivement, un sol, il faut qu'il soit vivant. Ils parlent des collemboles, des acarniens, alors qu'ils nous ont combattus pendant des années.
Oui, ça a été dur. Parce que c'était pas évident que les électeurs s'intéressent à la vie de leur sol. Et ils étaient dans un modèle où on leur disait que le sol, c'était un support, on balance les engrais chimiques, les pesticides, tout va très bien. Et nous, on leur disait, faites attention, c'est un milieu vivant, vous êtes en train... Bon, la population de vers de terre est totalement effondrée en Europe, faites attention, il y a vos sols, il y a un moment, ça ira plus. Ils le voient d'ailleurs, avec toutes les inondations, les sols ne boivent plus l'eau parce qu'il n'y a plus de faune, il n'y a plus rien. Les inondations partout, mais les gens nous prenaient pour des martiens à l'époque. Donc c'était très dur d'avoir des analyses, parce que nous, on vit des analyses qu'on fait pour les agriculteurs, où on regarde l'état de dégradation de leur sol et on leur préconise ensuite des itinéraires pour remettre leur sol debout. Faire convaincre un agriculteur de nous faire travailler, de nous faire analyser ses sols, c'était pas évident. Ça a été dur. Et ça reste toujours dur.
Vous savez, nous, on va avec des agriculteurs qui n'ont jamais... Ils sont dans leur tracteur, ils n'ont jamais vu leur sol. C'est-à-dire que quand on fait un trou, ils sont là, ils disent « Ah, mais c'est pas vrai que c'est comme ça. Mais j'ai des racines qui descendent comme ça. Ah, mais mon sol, il a cette couleur-là. » On leur dit « Mais attendez, c'est votre outil de travail, quoi. Votre tracteur, vous connaissez tout le moindre boulon et votre sol, vous ne le connaissez pas. » Ben non, ils ne le connaissent pas.
C'est quand même extraordinaire de se dire que l'humanité laisse empoisonner le milieu qui le nourrit, quoi.
Nous, ce qui nous choque, c'est par exemple la nouvelle agriculture intensive mais écologique. Ben, là, il y a...
C'est un oxymore. L'agriculture écologiquement intensive, c'est un oxymore manipulé par ces grandes industries pour noyer le poisson. Ils essayent de tout verdir, même les OGM, ils essayent de vous faire croire que les OGM, c'est très écologique. Nous, on travaille en Argentine depuis longtemps, avec des agriculteurs qui, au départ, n'utilisaient pas d'OGM. C'est des gens conventionnels, hein, pas des gens qui étaient en bio. C'est des gens qui consommaient 2 à 3 litres de glyphosate hectare. Depuis qu'ils sont en OGM, ils sont à 12 litres de glyphosate. Et comme ça ne suffit pas, c'est des plantes résistantes, ils rajoutent 4 litres d'atrazine, produit maintenant totalement interdit à cause de cette toxicité en Europe. Et Monsanto, depuis qu'ils ont sorti les OGM, ils sont passés d'une vente de 5 millions de tonnes de glyphosate dans le monde à 30 millions de tonnes, c'est-à-dire 6 kilos par habitant et par an. Faut quand même arrêter, quoi.
Comme les nuages, comme l'air. Le soleil, Roundup de Monsanto, est un élément primordial pour l'agriculture. Roundup de Monsanto, très proche de la nature.
C'est grave, c'est très grave quand les chercheurs, comme nos amis Claude et Lydia Bourguignon, sont dépendants des grandes industries pour leurs recherches. Quand les grandes boîtes financent la recherche, les chercheurs ne sont plus indépendants et voilà, donc on peut plus compter sur rien. Ils ne servent plus à rien. Au contraire, ils sont contre nous. Il faut absolument que ces gens-là, qui sont des travailleurs intellectuels, absolument indispensables, soient absolument indépendants et que les budgets de la recherche soient absolument neutres, nationaux, qu'on s'arrange pour trouver une solution qu'on avait déjà, d'ailleurs. Je pense au CNRS et je pense à toutes ces... C'est des domaines sur lesquels on ne va pas tellement et on a tort parce que c'est très important. Très très important. Là, on est en train de parler de survie, là, comme on est là. Hein. C'est pas... Alors, il y a les écolos, faut le clos, un petit peu. On s'aperçoit qu'ils sont rigolos, on s'est beaucoup foutu d'eux, et puis finalement, il se pourrait bien qu'il n'ait pas entièrement tort. Emmanuel Giboulot est de cela, c'est pas un petit écolo comme ça dans un coin, c'est pas un écolo bougie comme disaient ces gens extrêmement méprisants, c'est un viticulteur qui marche bien, qui est assez prospère, et comme je vous l'ai expliqué déjà, et vous le savez parce que je suis sûr que beaucoup d'entre vous s'intéressent à cette histoire, il a refusé donc de répandre ce pesticide. On va à sa rencontre.
Sécurité que la descente du train doit collectivement s'effectuer sur un quai et à l'arrêt. Mesdames et messieurs, bonjour. Emmanuel Giboulot, mon mari, voilà, enfin on a tous, désolé, je vous
chame comme ça, parce que... On
l'a signé, hein. Bah oui, bien sûr, toute la famille. Et puis continuez surtout.
Je pense qu'on peut en sortir tous la tête haute.
Ouais, ça a été ma première réaction.
En tout cas, bravo.
Je l'ai écrit.
Super, on est content, on viendra chez vous acheter du vin.
Merci.
Bon courage.
Yves Aubry est un viticulteur bio, alors forcément,
BFM TV,
quand un de ses collègues refuse de traiter ses vignes, il le soutient.
24 février 2014.
C'est un gars qui est quand même sérieux, je pense. Ça fait 30 ou 40 ans qu'il est en bio, il en vit toujours, donc on peut supposer qu'il continue à faire du vin, et sûrement de très bonne qualité, et qu'effectivement, il a réussi certainement à préserver cette biodiversité.
Le problème, c'est la flavescence dorée, une maladie due à une larve d'insectes très contagieuse qui tue les vignes. Pour le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, traiter est indispensable pour exclure tout risque de contagion parmi les vignes.
Quelle aventure alors, hein, Emmanuel Giboulot. Hein. On vous reconnaît à la gare, on vous félicite à la gare. Ah ouais, là vous avez quand même fait avancer le Schmilblick. Hein.
Oui, enfin, je pense que les pratiques, elles ont beaucoup évolué ces 15 dernières années. Hein. Ça, c'est quand même indéniable. Et là, on est dans un schéma qui correspond pas forcément à la pratique, d'ailleurs, la pratique locale, parce que un arrêté préfectoral qui oblige de traiter quand on n'a pas de maladie, c'est complètement incohérent. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de gens qui ont fait comme moi, hein, qui n'ont pas traité, ou bien n'ont pas acheté les produits, ou bien les ont achetés sans les mettre. Voilà. Moi, le truc, c'est que j'ai été contrôlé. Alors, évidemment, tout le monde n'a pas été contrôlé. Il y a eu 11 contrôles dans le département, donc ce qui était assez peu, puisque en définitive, la maladie n'étant pas présente, les contrôles, ils ont beaucoup été faits, en fait, sur le département de la Saône-et-Loire, là où le foyer de flavescence était sorti, quoi. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que là, du fait de l'amplification de l'affaire, a fait que ça dépasse évidemment le cadre de ma petite personne, et puis ça dépasse même le cadre de la viticulture, puisque c'est toute la problématique des pesticides en agriculture qui est soulevée. C'est un vrai sujet. Après, il ne faut pas être naïf, hein. On n'a pas la possibilité en agriculture de laisser pousser et puis de récolter ce qui reste. Il est clair que les produits de traitement ont leur place, mais dans quelles conditions, dans quelles proportions. Et bon, nous, on a fait le choix d'un type d'agriculture qui essaie d'être la plus respectueuse possible. Mais la question qui est posée là, c'est est-ce que la priorité, c'est la sécurité à travers des traitements dès qu'il y a un problème potentiel qui pointe son nez, ou alors est-ce qu'on prend le recul nécessaire pour juger si on doit effectivement, oui ou non, utiliser les produits. Ce qui n'était pas le cas cette année, n'ayant pas de maladie dans le département, Voilà, ça, c'était complètement incohérent de traiter en 2013 cette maladie.
Qu'est-ce qu'on va mettre dans nos assiettes? 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 Qu'est-ce qu'on va mettre dans nos assiettes?
Je vais vous faire un truc diététique, un peu de maïs transgénique pour faire saliver vos babines. À la dioxine, une petite salade, ça fait pas tort. C'est du soja Terminator. Goûtez ce bon pilon bien rose de poulet à la Listerio.
Qu'est-ce qu'on va mettre dans nos assiettes? Qu'est-ce qu'on va mettre dans nos assiettes? Qu'est-ce qu'on va mettre dans nos assiettes? Qu'est-ce qu'on va mettre dans nos assiettes?
Tenez pour vous réhydrater, une carafe d'eau toute nitratée ou d'une obscure caféicole, un verre de vin au méthanol. C'est un rodien frigorifique, c'est du lait aux antibiotiques. Pourquoi savoir le teint livide? C'est du soda au fond j'y suis.
Qu'est-ce qu'on va mettre dans nos assiettes? Qu'est-ce qu'on va mettre dans nos assiettes?
Alors voilà, c'est le domaine Emmanuel Giboulot, vin de Bourgogne. Vignoble en biodynamie. Et ça, c'est les bureaux ici, hein, c'est ça?
À la fois la cave,
ah,
les
ouais.
vins sont élevés.
Oh, c'est la mise en carton, c'est ça? Étiquetage et...
Oui, ça, c'est l'étiquetage. Ouais. Et puis comme c'est vraiment pas beau aujourd'hui, bon. D'ailleurs, bah, tiens, je pourrais te descendre. Le bord du rond, il y a une commande 120 bouteilles de châtaigne. En plus du stock.
Ok, donc,
avec les étiquettes Combev, photocollantes, Côte de Beaune, la Grande Châtelaine, appellation Côte de Beaune contrôlée, mise en bouteille de la propriété, domaine Emmanuel Giboulot. Beaune, Côte d'Or, France. Vin issu des réserves de l'agriculture biologique.
Ici, on n'a pas la place suffisante pour avoir tout au même endroit. Donc, ma cuverie est à 4 km d'ici. Pour la Bourgogne, c'est une exploitation moyenne, 10 hectares de vignes. Oui, on est dans une moyenne. Alors, en fait, la taille de l'exploitation ne veut pas forcément dire grand-chose. Enfin, bien sûr que ça a une incidence, mais le prix de vente des bouteilles de vin est très dépendant du niveau d'appellation. Donc nous, on a beaucoup d'appellations modestes et d'appellations, on va dire, milieu de gamme, c'est-à-dire appellation village, et puis d'appellations régionales, Bourgogne de Côte de Nuit, et on a même aussi un petit peu d'IGP. Voilà, donc... Je pourrais avoir 5 hectares et vivre aussi bien, voire mieux, si j'avais par exemple des crus plus prestigieux.
Alors Emmanuel Giboulot, comment ça se passe avec vos collègues vignerons, viticulteurs?
Alors d'abord il faut dire que j'ai refusé de traiter sur un traitement spécifique, qui est un insecticide, qui a été déclaré obligatoire par un arrêté préfectoral dans le département de la Côte d'Or. Cet insecticide avait pour but de détruire une partie des populations de cicadelles, qui sont des insectes qui vont transmettre cette maladie de la flavescence. Hein, la flavescence est identifiée comme étant un phytoplasme qui s'attaque à la vigne et qui peut entraîner sa mort dans les 2-3 ans qui suivent. En tout cas, la récolte est réduite à néant en très peu de temps et ça peut entraîner la mortalité du pied. Et donc, quand on fait des traitements insecticides dans le cadre de la lutte contre cette maladie, on va tuer le vecteur. On cherche en tout cas à tuer cet insecte qui va transmettre la maladie d'un pied sur un autre. Moi, je me suis engagé à ne pas traiter parce que la maladie n'était pas détectée dans le département au moment où l'arrêté préfectoral a été fait. Donc comme cet insecte doit transmettre la maladie d'un pied sur un autre... Je voyais pas l'intérêt d'utiliser un insecticide pour détruire potentiellement ce vecteur, sachant que normalement il n'y avait pas de source à transmettre. Voyez, donc c'est ça que j'ai refusé de faire. Et on est nombreux à avoir refusé de le faire, mais d'une façon officieuse. Donc, par rapport à mes collègues, On a tous les cas de figure. Il y a des gens qui n'ont pas acheté le produit, comme moi, producteurs conventionnels ou producteurs bio. Il y a des gens qui ont acheté le produit sans le mettre, qui ont refusé ce traitement, mais sans le revendiquer, évidemment. Et il y a des gens qui l'ont mis. Voilà, on a dans cette problématique de traitement obligatoire des réactions qui sont des réactions individuelles, alors même que l'arrêté qui impose ce traitement induit une forme de déresponsabilisation, puisqu'on considère que quelque part on n'a pas à se poser la question, il y a un arrêté, on doit traiter, on traite.
Alors qu'est-ce qui explique cette solidarité? Il y a eu des pétitions signées, il y a eu vraiment un soutien très important, ouais. Hein, vous l'expliquez comment?
Ben moi j'étais très surpris de voir plus de 500 000 soutiens sur l'Institut pour la Santé Naturelle qui nous a proposé de faire une pétition. C'était juste 10 jours avant le procès. Il y avait 100 000 sur un autre soutien, il y avait 50 000 sur, je crois que c'est Avaz, enfin, ou Change. Oui, c'était incroyable. Incroyable, et moi je pense que c'est véritablement aujourd'hui une problématique qui est dans la conscience des gens. La société civile est sensible à cette problématique environnementale qui est assez large, et la problématique des pesticides, elle est réelle, quoi. On connaît aujourd'hui l'impact des pesticides sur la santé, et en même temps, il faut bien être conscient que dans l'agriculture, on peut pas se passer de tout. Hein. Donc on est dans ce schéma où on cherche, il faut obtenir cet équilibre entre produire et avoir des pratiques respectueuses, les plus respectueuses possibles. Et évidemment que à ce jour, on ne peut pas se passer 100% de pesticides. Mais en tout cas, il faut s'en passer à chaque fois que c'est possible.
Impressionnant, hein, cette campagne. Très impressionnant, cette mobilisation. 500 000 signature, soutien, c'est tout à fait extraordinaire, c'est une mobilisation formidable. Alors il y a cet institut pour la protection de la santé naturelle, mais qui avait déjà une base très importante de données, voilà, qui a trouvé là de quoi se faire remarquer et se positionner. Il y a beaucoup du soutien. Alors tous les verts possibles et imaginables, les verts clairs, les verts foncés, les verts bleus, les verts rouges, mais aussi un peu les verts bruns. Et oui, il y a des sites d'extrême droite qui se sont emparés de l'histoire d'Emmanuel Giboulot, jugeant que, voilà, pourquoi pas, l'écologie, la nature et tout ça, ça concerne aussi ces gens-là qui n'en suffit pas de piquer toutes les idées de gauche, tous les symboles de la gauche. Maintenant, ils vont sur l'écologie. Évidemment, tout ça, ça dépasse tout à fait Emmanuel Giboulot, il voulait pas ça, mais bon, on peut tout à fait détourner aujourd'hui et récupérer aujourd'hui avec le système de la cybermobilisation, ça peut conduire à ça. Et puis ça peut conduire aussi à des petits malins qui organisent des pétitions dans le seul but de revendre les données. Vous, de bonne foi, vous mobilisez, vous êtes indigné, je signe une pétition et je mets toutes mes coordonnées, et ben ce sera vendu, ce sera à l'intérieur d'un listing, c'est le gros marché actuel. Alors essayez d'y penser de temps en temps.
Alors, il y a une petite dégustation qui se prépare, c'est ça?
Oui, on attend des clients, là.
Alors, est-ce que ça a boosté les ventes, cette histoire?
Non, on a là, depuis quelques jours, oui, des demandes de particuliers qui disent qu'ils vont nous prendre du vin pour nous soutenir, quoi. Ils sont venus à la suite de ça, mais...
Et vous nous faites boire quoi, là?
C'est les pierres blanches, ça, c'est Côte de Beaune, les pierres blanches.
D'accord.
Donc c'est la deuxième parcelle, voilà, qui est située ici. Ouais. Donc on est sur l'exposition est traditionnelle, que j'appelle Pierre Blanche, et ici, dans cette parcelle-là, que j'appelle Combe d'Ève, qui correspond au nom populaire de cet ensemble. Et vous voyez, vous allez voir, on a une expression minérale assez différente d'un côté et de l'autre. Mmh.
Vous êtes venu déguster ici, chez Emmanuel. Vous êtes des amateurs éclairés, quand même.
On aime bien boire du vin depuis...
25 ans, à peu près.
Mais vous n'êtes pas du métier, hein, c'est ça?
Pas du tout. Nous, on est plutôt dans la médecine.
C'est-à-dire, vous faites quoi?
On est médecin.
Vous êtes médecin, d'accord.
Oui, on est médecin.
Moi, je suis rhumatologue.
Et moi, néphrologue. Je m'occupe des maladies des reins.
On a beaucoup de messages de soutien de médecins. Hein.
On est très, très attachés à ça. À tout ce qui se fait autour de l'agriculture, pas de pesticides, pas de... On sait que ça a quand même des conséquences sur la santé qui ne sont pas négligeables et que tout le circuit agroalimentaire, les grosses firmes, l'économie fait qu'on doit traiter, on doit produire des rendements. Et c'est bien des gens comme vous qui sont des gens raisonnables, qui ont envie de faire bien leur travail, qui ont envie de prendre leur temps, qui ont envie de vivre à la vitesse de la nature et pas de l'économie. Et ça, ça nous, c'est très important, quoi. Donc des gens comme vous, c'est emblématique, c'est connu et c'est important. Voilà.
Oui, le problème, c'est qu'en définitive, si vous voulez, tout le monde dans le monde agricole cherche à faire des choses bien. La difficulté, c'est de définir jusqu'où on peut aller dans certaines pratiques qui vont conduire à des choses bien ou des choses moins bien. Il faut que le modèle global évolue. Mais il faut aussi que ceux qui sont dans, comme nous dans un modèle qu'on a choisi, effectivement, peut-être sur un rythme différent, qu'on puisse aussi exister sans être en confrontation avec nos collègues.
Moi j'aime pas les vins chers, ceux qui se vendent aux enchères et partent en Amérique. Ceux qui font des manières entre la sole meunière et les fruits exotiques. Moi j'aime les vins canailles, ceux qui ont jamais de médaille au concours agricole. Qui sont nés sur la paille, qui ont les cheveux en bataille, ceux qui ont pas fait l'école. Celui qu'on boit comme ça sans faire de tralala, celui qui a pas d'étiquette. Qui se prend pas au sérieux, qui en met pas plein les yeux, qui est tout nu sans liquette. Moi j'aime celui qui est bien rond, qui joue pas les barons, mais qui donne son soleil. Pas les grands millésimes, les vieux crus rarissimes, qui vous chauffent les oreilles. Ah, qui sont pas vulgaires, mais qui ont passé la guerre à l'abri dans les caves. Ceux qu'on peut pas toucher, qui doivent rester couchés, qui nous prennent pour des caves. Moi c'est le rouge pas farouche, qui roule bien dans la bouche, ni trop mou ni trop vert. Suis des bois et charbon, qui a pas le nez bourbon, mais fait chanter les vers.
Alors Emmanuel Giboulot, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas vous arrêter là, j'imagine, non?
Pour l'instant, on attend la décision de la justice. On va voir ce qui se passe le 7 avril, sachant que, bien sûr, le résultat du procès va donner une indication. Hein, parce que si l'arrêté préfectoral tel qu'il a été fait l'année dernière était invalidé, évidemment que ça a une portée sur l'organisation qui va se mettre en place en 2014. Et moi, je souhaite aujourd'hui qu'on arrive à se rassembler pour que toute la région, toute la Bourgogne, tous les vignobles de France s'engagent vers une viticulture qui aille encore plus loin, même si elle a fait beaucoup de progrès ces 15 dernières années. On doit pouvoir sortir la tête haute de ce débat qui est porté sur la place publique, sans pour autant que les uns ou les autres soient stigmatisés, mais que chacun soit mis face à ses responsabilités. Et c'est vrai que là, le traitement obligatoire déresponsabilise chaque viticulteur. C'est certain que la multiplication des traitements a une incidence. Bon, on le voit à travers l'appel des 1200 médecins, par exemple. On a aujourd'hui quand même assez régulièrement des informations sur la conséquence de l'utilisation des pesticides. Et c'est pour ça que, pour moi et pour d'autres collègues, c'est très très important de ne faire des traitements que quand c'est justifié. Et là, en l'occurrence, en 2013, pour la Côte d'Or, on était dans un schéma où il n'était pas justifié de traiter tout le département puisque on n'avait pas de maladie avérée.
Eh, joli bruit quand même hein, pour finir. Merci à tous, c'était Emmanuel Giboulot. Le naturel revient au galop. J'ai pas dit au goulot, j'ai dit au Gallo. Un reportage d'Antoine Chao. Merci à Emmanuel Giboulot, à Claude et Lydia Bourguignon. La bio entre business et projet de société. Un livre collectif sous la direction de Philippe Baquet aux éditions Agone. Et puis, Pesticides, révélations sur un scandale français de l'excellent Fabrice Nicolino et François Veillerette aux éditions Fayard. Vous trouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. Et sur le site là-bas.org, vous pouvez réécouter cette émission. Il y a aussi la page Facebook de Là-bas si j'y suis. Bien sûr, on suit l'affaire. Hein. Il faut attendre le rendu le 7 avril, la manifestation des médecins, etc. C'est des histoires qui avancent peu à peu à la technique aujourd'hui. Arnaud Caillet et Aveline Carmois. Jérôme Chélus et Franck Adéret ont réalisé cette émission préparée avec Jonathan Duong et Stéphanie Fromentin attend vos messages sur le répondeur de la basse j'y suis au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37. On se retrouve pas demain vendredi, on se retrouve lundi à 15h pour la basse j'y suis. Bonne fin de semaine à tous. Dans l'immédiat, je vous laisse avec Hervé Pochon avec son temps de Pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon, mais ça ne va pas durer.
Bonjour à tous et bienvenue au championnat de France de remplacement de pare-brise. Mais oui, ça existe, c'était normal que France Inter soit là. D'ailleurs, je suis la seule radio nationale présente sur le site. Bon, c'est organisé par un grand remplaçant de pare-brise que je ne nommerai pas, puisque nous sommes sur France Inter. Et vous, monsieur, qu'est-ce que vous faites ?
Alors nous sommes dans la prévention routière et nous avons une voiture tonneau pour présenter aux gens qu'il faut bien s'attacher, surtout dans la voiture. Voilà, là vous allez voir comment ça se passe, on va la faire tourner. Et là vous voyez, on leur met la tête en bas déjà. Et après on leur fait faire un tour ou deux. Voilà, et en sortant, normalement ils vont se rendre compte que la ceinture de sécurité en voiture est très très utile. Parce que vous avez encore certaines personnes qui ne la mettent pas. Voilà.
Alors monsieur ?
Ah génial !
Vous n'avez pas envie de vomir ?
Ah non du tout, ça va, j'ai la tête qui tourne, je vais aller prendre l'air quand même. Ouh ! Ça secoue hein. Ouh.
Vous vous dites, je vais conduire moins vite maintenant ?
Ah oui, oui, carrément, ouais. Ça me donne pas envie de... Quand je vois le choc que ça fait à 50 km/h, oui, ça fait réfléchir, hein, c'est sûr.
Je vais aller essayer quand même. Hein.
Ah oui ?
Alors, je monte dans la voiture.
Voilà. Déjà, voilà, vous êtes dans une voiture qui sert à faire des tonneaux à une vitesse de 50 à l'heure. Tout est étudié pour 50 à l'heure. Votre poids de corps, dans la force centrifuge, va être multiplié par 30. Une personne de 80 kg va devenir 2,4 tonnes. Choc frontal à 50 à l'heure, je dis bien choc frontal à 50 à l'heure, c'est une chute du troisième étage. Et à 50 à l'heure, le temps de réaction, vous faites 14 mètres. Le véhicule lancé à cette allure fera à peu près la même distance, de 27 à 28 mètres suivant la situation de la route, pour arrêter le véhicule. Donc évitons de serrer les voitures, garder ces distances, c'est très important. Voilà.
Et pourquoi vous faites ça pendant les championnats de France de remplacement de pare-brise ?
Ils nous ont demandé de venir avec un atelier de la sécurité routière. Et voilà, donc voilà pour cette raison que nous sommes venus chez eux. Allez, on y va.
Ah ben vous mettez qui vous voulez, moi, il n'y a pas de problème.
Ça fait pas mal, hein ?
Oui, non.
Non.
Pourquoi vous me donnez le micro ?
Non, c'est moi qui le tiens, le micro. On va faire un petit reportage pendant qu'on fait les tonneaux.
Comme dans votre voiture. Allez-y.
Ah, j'espère que ça fait pas mal, hein.
J'espère aussi, hein, j'ai pas envie d'avoir mal, moi. Comment vous vous appelez ? C'est quoi votre prénom ?
Et là, vous craignez rien du tout. N'ayez pas peur, ça craint rien.
Idylle.
Ne touchez pas la ceinture.
Et qu'est-ce que vous faites, championnat de France de remplacement de pare-brise ?
Ah, rien, je suis venu regarder.
C'est vrai ? Ça vous plaît ?
Oui.
Ah, ça renverse, ça tourne. Voilà.
Non ! Oh, putain !
Ah ouais, d'accord. Ah ouais, j'ai la tête en bas. Ah ouais. Oh.
Ça va.
Ah oui, c'est impressionnant, oui, ça secoue.
Donc là, vous y attendez, parce que c'est un simulateur, ouais. Mais dans la réalité, c'est pas ça. Là, dans la réalité, vous avez la tôle qui va s'écraser, les pare-brises qui explosent, l'essence qui coule, et donc, voilà, donc ça donne une idée quand même de ce qui pourrait nous arriver à tous dans la voiture, sur les routes.
Bon alors, mademoiselle, je vous ai pas demandé. Alors comment ça va après avoir fait les tonneaux ?
Très bien.
Très bien ? Bon. Et vous m'avez dit que vous étiez venu observer les championnats de France de remplacement de pare-brise ?
Oui, voilà.
Et qu'est-ce qui vous plaît ? Regardez les beaux hommes en train de changer les vitres. C'est ça ? Oui, parce qu'il n'y a pas de filles qui remplacent les pare-brises. Hein. Si.
Nous avons des techniciennes vitrage.
Mais, et là, il y en a qui participent.
Ils ne sont pas là aujourd'hui, non.
Ah,
parce
voilà, il n'y en a pas qui participent.
Ils sont là-bas, elles font les filles.
Pourquoi elles ne participent pas, les filles, au championnat de France ?
Non, non, mais parce qu'en fait, les techniciens qui sont ici ont été présélectionnés en région.
Ouais.
Bon, il se trouve que ce sont principalement des hommes. Vous doutez qu'il y a principalement des hommes en région. Mais nous avons des techniciennes vitrage qui seront bien évidemment mises à l'honneur à l'occasion de la journée de la femme.
Ah,
je le précise parce que ce sont des profils précieux pour nous.
Voilà. Je comprends, mais je constate qu'il n'y en a pas qui ont le niveau de participer au championnat de France.
Je suis une femme, hein, mais...
Non, ben non, évidemment.
Il y a eu 1000 candidats, hein, je crois, à peu près, au départ.
Parce qu'elles n'ont pas le niveau.
Aujourd'hui.
Je sais une chose, à la minute où je vous parle, c'est que le champion de France du remplacement de pare-brise ne sera pas une femme cette année.
Ah ben non. Bonne déduction.
Ouais, ça vous plaît de regarder le championnat de France, là ?
Bah oui, comme l'année dernière, on a regardé, comme cette année, on regarde.
Mais pas l'année dernière, on m'a dit que c'était tous les deux ans.
Tous les deux ans, ouais,
ah oui,
il y a deux
attention,
ans.
Attention, hein, ouais, pression, on est sur France Inter.
Ouais,
hein.
Non, il y a deux ans.
Le championnat de France de
remplacement. C'est à la
télé ? Mais non, c'est à la radio France Inter.
Ah d'accord, ok.
Le tour de voiture, ça donne quoi ?
Bah, ça donne envie de vomir.
À n'importe quel moment de la journée.
Je me le cache pas. Hein. Moi, je suis déjà très sensible. Même sur une balançoire, je peux avoir mal au cœur. Alors là, je dois dire, je suis un peu remué. Quoi.
Vous allez faire attention en voiture ?
Ah oui, mais je faisais déjà attention avant. Hein.
Alors, que dit le jury, là ?
On n'a pas les 12 mm.
Ah.
On est un petit peu en dessous.
Donc c'est pas très bon.
Fuite, mauvaise accroche, voilà. Voilà.
Et en tout, il y a combien d'épreuves ?
6 épreuves.
6 épreuves pour être champion de France.
Exactement.
Merci, monsieur le jury.
Je vous en prie, monsieur.
Et les 6 épreuves ont permis d'attribuer le titre de champion de France 2014 de remplacement de pare-brise à Mathieu Froment, qui travaille à Créteil. Bonne chance pour les championnats du monde à Rome.
D'accord. À ton prochain, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve lundi.
Un temps de pochon a été réalisé par Véronique Barnet.
Bureau d'enregistrement des rêves.
Bonjour, j'aimerais déposer plein de rêves. C'est pour le super jackpot Euromillion.
Plein, c'est combien ?
Des dizaines.
Combien ?
Et peut-être même des centaines, qui sait ?
Patientez. Bon, Brigitte, tu m'attends pas pour déjeuner, hein ? J'ai un super jackpot.
Ah oui, là, on n'a pas fini, là.
Prends-moi un sandwich !
Oui, moi aussi, hein, deux !
Euromillion My Million. Venez avec vos rêves. Ce vendredi, super jackpot Euromillion de 100 millions d'euros. À partager au rang 1, voire règlement.
FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Vous écoutez France Inter, il est 16h. Les informations, Pierrick Bonneau.
Washington met une nouvelle fois en garde Moscou. L'organisation d'un référendum en Crimée sur le rattachement de la péninsule à la Russie sans consultation de l'Ukraine serait une violation du droit international, selon la Maison-Blanche. Le Parlement de la région autonome a franchi un nouveau cap ce matin en votant à l'unanimité le principe d'un rapprochement avec la Russie avant même de consulter le peuple. Les forces ukrainiennes présentes sur la péninsule seront désormais considérées comme occupantes et doivent se rendre ou partir, avertissement du vice-premier ministre de la région autonome. Le secrétaire d'État américain John Kerry rencontrait tout à l'heure son homologue russe Sergueï Lavrov à Rome. Aucun accord n'a été trouvé pour trouver une solution à la crise ukrainienne, ce qu'a fait savoir ce dernier. De son côté, le gouvernement de transition à Kiev affirme que l'armée ukrainienne agira en cas d'escalade et se dit prêt à signer un accord d'association avec l'Union européenne. Le président Hollande est en ce moment à Bruxelles avec ses homologues européens pour un sommet de crise sur l'Ukraine. François Hollande qui a rendu hommage à Maurice Faure, l'ancien ministre radical, l'un des signataires du traité de Rome en 1957, est mort à l'âge de 92 ans à Cahors, dans le Lot, ville dont il a été maire pendant 25 ans. Le chef de l'État salue un grand Européen et un fervent défenseur de l'Union Européenne. On en sait un peu plus sur les intentions des dirigeants de Libération. Le journal est en grande difficulté financière et Bruno Ledoux, président du Conseil de surveillance et actionnaire, a admis cet après-midi qu'une restructuration très conséquente était inévitable. Il y aura moins de journalistes qu'aujourd'hui. Voilà ce qu'a déclaré l'homme d'affaires devant les élèves de l'Institut européen de journalisme où il donnait une conférence. Bruno Ledoux a également annoncé l'entrée de 3 ou 4 entrepreneurs français dans le capital de Libé. Des entrepreneurs qui n'ont jusque-là jamais investi dans la presse. Trois mois avec sursis pour les 29 militants de Greenpeace qui s'étaient introduits en juillet 2013 sur le site nucléaire du Tricastin dans la Drôme pour y déployer une banderole. Des peines de 6 mois à 1 an de prison avec sursis avaient été requises à leur encontre. La décision du président Hollande sur le pacte de responsabilité est irresponsable selon le numéro 1 de la CGT. Thierry Le Pen appelle à un printemps de mobilisation, arbitrage jugé irresponsable sur le fond comme sur la forme. Le patron de la CGT accuse le président de la République d'avoir donné les clés de la voiture France au MEDEF. Les positions du patronat justement sur la réforme du régime d'indemnisation des intermittents du spectacle dans le cadre des négociations sur l'assurance chômage ne passent toujours pas. Plusieurs dizaines d'intermittents occupent en ce moment le siège de la CGPME Île-de-France à Paris. Hier soir, plus de 400 d'entre eux réunis en Assemblée Générale à l'Olympia avaient appelé à maintenir la pression sur le patronat. Le 15 de France, à moitié remanié pour affronter l'Écosse samedi dans le tournoi Destination. L'encadrement des rugbymen français a bouleversé son équipe de départ en procédant à pas moins de 7 changements après la défaite face au Pays de Galles il y a 15 jours.
Demain, à partir de 18h20,
todos europeanos,
alles européens,
tous des Européens,
all Europeans,
une émission spéciale présentée par Hélène Jouan, Jean-Marie Colombani et Éric Valmire.
Tous des Européens poursuit son voyage en Europe.
Nouvelle étape, demain, nous serons à Lisbonne, au Portugal, une émission en partenariat avec Metro News.
40 ans après la révolution des œillets, où en est le Portugal?
Émigration massive, penser et produire différemment, manifestation contre l'austérité, les Portugais face à la crise.
Entretien politique, portrait, rencontre avec la société portugaise, c'est demain soir à Lisbonne.
Et comme d'habitude, du live avec Dead Combo.
Tous des Européens, demain sur France Inter, à partir de 18h20.
France Inter.
La voix est libre.
16h passé de 4 minutes sur Inter, vous avez rendez-vous avec Carrefour de l'Odéon. Bonjour Frédéric L'Odéon.
Bonjour Pierrick Bonneau, on vous retrouve à 17h pour d'autres informations. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Je reçois aujourd'hui deux grands artistes. Tout à l'heure, à 16h30, le chef d'orchestre Yannick Nézet-Séguin pour son disque des symphonies de Schumann. Et tout de suite, grand plaisir aussi, Elena Bashkirova, pianiste. Bonjour Elena.
Bonjour.
Alors vous venez nous donner un beau concert lundi, salle Pleyel à Paris, avec un programme tout à fait romantique, avec une œuvre qu'on ne connaît pas, d'une dame, Galina, je vous laisserai dire le mot.
Ostrolskaya.
Ah oui, c'est ça, très bien, voilà. Et... qui a écrit des sonates. Donc là, il y a une 5e sonate en 10 épisodes. Il y aura Tchaïkovski, les saisons, il y aura Liszt, un extrait des années de pèlerinage, la vallée d'Obermann, et puis Schumann, humoresque pour le piano. Bref, ça va être très grand. C'est ça le Pleyel, je le rappelle, le 10 mars prochain, grand concert. Et nous sommes très heureux. On vous fait une dédicace musicale dans quelques instants. On va écouter votre talent avec Schubert, mais je dois signaler que lors du concert du 1er de l'an, votre mari, Daniel Barenboim, vous a fait une dédicace musicale. Il a dirigé un extrait de La Belle Hélène, vous appelez Elena, voilà. Et le présentateur français nous a mis dans la confidence. Il a dit, c'était un coup de cœur, parce que vous étiez dans la salle. On vous a montré à la caméra. Bon, comment vous faites pour le voir, Daniel Barenboim, parce qu'il travaille de manière gigantesque. Vous voyagez beaucoup aussi. Vous avez quand même quelques rencontres.
Oui, oh non, oui. Moi je travaille pas autant
et personne peut travailler autant que Daniel Barenboim.
C'est vrai, mais il travaille, il voyage pas aussi qu'on pense, parce qu'il travaille la plupart du temps à Berlin.
Oui,
et quand même, c'est notre maison. Alors, on se voit de temps en temps.
Bon, ben c'est bien, c'est bien. Écoutez, on a trouvé des concerts au Festival de la Roure, parce que vous fréquentez évidemment beaucoup de festivals, vous jouez toutes sortes de musiques, aussi bien de la musique contemporaine que de la musique romantique. romantique. Je ne vais pas citer tous les orchestres avec lesquels vous avez déjà joué, et puis ceux qui vous attendent. Vous êtes aussi directrice du Festival International de Musique de Chambre de Jérusalem. Enfin, vous avez une activité assez débordante aussi, quand même. Et tout de go, si j'ose dire. Voici un extrait de la 18e sonate de Franz Schubert, Menuetto.